pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, le 16 octobre, jeudi dernier, c'était la journée mondiale de l'alimentation. Plus de 150 pays se sont mobilisés sur le thème « Agriculture familiale, nourrir le monde, préserver la planète ». Il y a d'ailleurs de nombreuses manifestations à travers le monde, aujourd'hui, sans doute près de chez vous, pour démontrer le rôle des petits exploitants dans la sécurité alimentaire mondiale. Encore faut-il qu'ils puissent cultiver leurs propres semences et ne pas subir le diktat des multinationales. C'est le combat du Réseau national des semences créé récemment en Colombie.
Si nous faisons tout cela pour conserver les semences, c'est parce que notre territoire a perdu beaucoup de semences traditionnelles. Parce que durant les 50 dernières années, nous avons eu un modèle agricole de révolution verte qui a changé la manière de penser notre agriculture traditionnelle. Beaucoup de semences ont donc été perdues parce que les agriculteurs ont copié un modèle venu de l'étranger et ont abandonné l'agriculture traditionnelle. Cela a conduit à faire beaucoup de monocultures, principalement de café et de canne à sucre, et à perdre beaucoup de variétés que nous avions pour notre alimentation.
Un reportage de Pierre Lefebvre à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Tout a commencé pour moi à 23 ans. Je suis parti en Antarctique où j'ai vécu une vingtaine d'expéditions. Au cours de ces campagnes, j'ai découvert au fond des glaces, l'impact des activités de l'homme sur le climat. Comme le disent les chercheurs du GIEC, ce réchauffement climatique va causer de nombreux dégâts. Il n'y a plus de doute, c'est l'homme qui maintenant devient le gouverneur du climat de la planète. Nous sommes maintenant dans l'urgence et ces découvertes que nous avons faites en Antarctique ont lancé l'alerte. Comment convaincre les industriels et les politiques que c'est une priorité? Je commence à être optimiste. Je crois que l'homme va se redresser, l'homme va faire l'effort et va trouver la solidarité qui mènera l'humanité, les gens qui vivent sur la planète, vers un autre type de comportement.
Cette voix, c'est celle du glaciologue Claude Lorius, et c'est vous qui l'avez enregistré, Luc Jacquet, bonjour.
Bonjour.
Depuis les années 90, vous réalisez des films sur la nature. Le plus connu, c'est sans doute La Marche de l'Empereur, qui avait reçu l'Oscar du meilleur film documentaire en 2006, mais il y en a eu de nombreux autres. Votre sensibilité vous a conduit aussi vers le monde de la forêt, par exemple. Il était une forêt, film magnifique, tourné avec le botaniste Francis Allais en 2013. Et maintenant, donc, vous vous intéressez au climat de notre planète. Vous avez lancé cette semaine une plateforme multimédia pédagogique, laglaceetleciel.com. Tout est parti de votre passion pour l'Antarctique.
Passion pour l'Antarctique et puis rencontre avec Claude Lorius, grand personnage, qui était polaire et qui dirigeait les instituts polaires quand moi j'étais, petit étudiant, petit agent de terrain de la science à cette époque. Et c'est vrai que ça a été une très très belle rencontre et un peu dans la même logique que ce que j'avais vécu avec Francis Allais. C'est quelqu'un qui est venu vers moi en me disant « Mais est-ce que tu peux m'aider à faire un film sur ces questions compliquées que sont les questions du bouleversement climatique ?»
Alors rappelez-nous un peu qui est Claude Lorius, hein. C'est un des glaciologues qui a aidé dès les années 60 à cette prise de conscience sur les changements climatiques.
Ben Claude Lorius, c'est paradoxalement un des plus grands scientifiques français du XXe siècle, qui a été récompensé par le prix Blue Planet, qui est l'équivalent du Nobel pour les sciences de l'environnement. Et il a été effectivement récompensé pour ses travaux sur les climats anciens, qu'il a découvert effectivement dans ses missions en Antarctique, dans les glaces de l'Antarctique. Et c'est vraiment quelqu'un qui, le premier, a tiré la sonnette d'alarme en disant « Regardez, si on analyse les climats du passé, si on analyse les bulles d'air piégées dans la glace, on s'aperçoit que dès le début de la révolution industrielle, avec donc la consommation des énergies fossiles, on s'aperçoit que le taux de CO2 commence à augmenter et très exactement dans la même proportion, la température est en train d'augmenter. »
Et alors l'objectif de cette plateforme, c'est de s'adresser au plus grand nombre, hein, parce qu'il faut sensibiliser pour mobiliser. Et là, c'est le défi que vous devez relever. Laurent Dez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable pédagogique du projet. Alors expliquez-nous quels sont les outils qui vont être mis en place, enfin qui sont, puisqu'elle a été lancée cette semaine, mis en place sur cette plateforme.
Ben, c'est avant tout des vidéos, du coup, parce que c'est ce que fait Wild Touch et c'est ce qu'on fait le mieux. Donc c'est avant tout des vidéos, à la fois des vidéos qui vont émettre de l'émotion et des vidéos qui vont être plus explicatives. Et à côté de ces vidéos, on propose des livrets qui permettent à tout éducateur, à tout professeur, d'avoir un ensemble d'informations qui fait qu'il n'aura pas besoin d'aller la chercher partout sur Internet et de la vérifier. Ce travail, on l'a fait avant. Et donc, ça lui permet de partir avec les vidéos, d'intéresser les enfants avec les vidéos et lui d'avoir suffisamment d'informations pour traiter le sujet avec les enfants.
Alors, on le dit haut et fort, hein, c'est gratuit, c'est en libre accès, puisque l'objectif, c'est de toucher le plus grand nombre. Vous parlez des professeurs, parce que ça s'adresse surtout aux écoles?
Alors, c'est principalement aux écoles, mais c'est aussi au grand public.
On en a tous besoin.
Voilà, exactement. Ces livrets sont tout à fait utilisables aussi par le grand public, et les vidéos d'autant plus.
Alors, Luc Jacquet, l'idée, c'est que cette plateforme vive, hein, c'est le côté sympathique de multimédia, donc il va y avoir plusieurs parties, ça va se construire petit à petit, ça a démarré cette semaine, mais...
Oui, l'idée, c'est d'être le plus interactif possible. On s'inscrit, nous, dans cette mouvance, cette révolution numérique qu'on est en train de vivre avec les métiers du cinéma, mais avec les autres métiers. Et nous, on essaye de prendre les devants en intégrant cette économie du partage, du gratuit. Parce que faire un grand film, c'est aussi l'opportunité de partager plein de choses, des rencontres, des savoirs, des paysages, des émotions, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de proposer quelque chose pour aller chercher de l'adhésion et du partage, dans cette logique du partage de la connaissance. Et je crois que tous ceux qui sont aujourd'hui dans une prise d'initiative sur ces questions du bouleversement climatique, prise d'initiative, je dirais, positive. Ok, on a compris, il est en train de se passer un truc, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Soit on se lamente et on va être relativement triste et relativement mal dans pas longtemps, soit on prend les choses en main. Et je crois que dans cette prise en main, il y a une forme de jubilation intellectuelle, et nous on va essayer de catalyser autour du personnage de Claude Lorius, autour de cette histoire, les énergies le plus largement possible.
Et pas seulement, hein, puisque la première partie finalement est autour de Claude Lorius et de ses découvertes, mais il y a aussi l'idée d'expliquer le rôle des glaces, d'expliquer ce que c'est que le climat de la planète et pourquoi il se réchauffe.
Effectivement, trois parties dans notre programme pédagogique. Une partie consacrée à l'histoire de cette science, pour comprendre que ces données, elles sont pas arrivées comme ça par hasard sur nos écrans à un moment donné. Une deuxième partie qui va expliquer les conséquences du bouleversement climatique sur les géants de la nature. Et une troisième partie qui va être consacrée aux solutions et aux acteurs de ces solutions. Donc trois volets qui vont être déclinés sur les trois trimestres de cette année. Donc le premier volet qui vient de sortir et qui est en libre accès sur la plateforme laglacelciel.com est consacré à l'histoire du climat, à l'histoire de la glaciologie et comment on a découvert ces choses-là.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI en compagnie du réalisateur Luc Jacquet qui vient de lancer donc une plateforme multimédia laglacelociel.com pour nous sensibiliser aux enjeux du climat. Le directeur pédagogique du projet, Laurent Dess, est aussi avec nous. Alors vous avez donc fait appel à des grands spécialistes qui ont fait l'effort d'expliquer eux aussi ces enjeux complexes de la façon la plus simple possible, comme Gilles Rammstein. Il est directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Il nous explique sur votre plateforme pourquoi ce qui se passe en ce moment est inédit.
Finalement, on pourrait se dire que ben non, c'est pas grave ce qu'on est en train de faire. On est en train juste de modifier une fois de plus le climat. Mais il y a un élément qui fait que cette modification qu'on est en train de produire, nous les hommes, est différente. Et cet élément, c'est la vitesse à laquelle on le fait. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On prend les combustibles fossiles, on les brûle, on les met dans l'atmosphère, et ça en quelques siècles, et pour nous développer. Et finalement, ça a un effet. Ça a un effet, c'est qu'il fait plus chaud et qu'on est en train de détériorer sérieusement notre propre environnement. Donc toute la question, elle est de sauver l'homme. Elle n'est pas tellement de sauver la planète. Sauver la planète, c'est un raccourci. La planète, elle s'est sortie d'autres extinctions, elle s'est sortie d'autres changements climatiques brutaux, elle se sortira aussi de cette impasse, tranquillement. Par contre, l'homme, lui, il est confronté, il va être confronté à de plus en plus de soucis s'il détruit lui-même son propre environnement. Les dinosaures sont morts accidentellement pour eux, pour une cause externe, qui était essentiellement un astéroïde. Nous, les hommes, nous sommes en train de créer les conditions d'un environnement qui nous sera finalement défavorable. C'est-à-dire que l'homme est en train de scier la branche sur laquelle il s'est développé. Mais le plus extraordinaire, c'est pas vraiment ça, parce que ça, c'est un constat, c'est le fait que, potentiellement, et parce qu'il a un gros cerveau, contrairement aux dinosaures, l'homme est capable à la fois de mesurer, d'analyser les ravages qu'il peut faire sur le plan de son propre environnement, et donc modifier sa trajectoire, son attitude. Qu'allons-nous faire? Qui va l'emporter? Le gros cerveau ou la dilapidation des richesses?
Et oui, c'est ça l'enjeu finalement. Est-ce que nous allons réussir à éviter de nous créer des conditions trop difficiles pour que nous vivions tous en harmonie sur notre seule et unique planète ? Alors c'est difficile quand même de parler du climat sans ennuyer, sans culpabiliser. Et vous, Luc Jacquet, vous les faire rêver ?
Oui, parce que je crois qu'il y a une histoire là-dedans. Je crois qu'il y a eu un énorme malentendu pendant très longtemps, ces 20 ou 30 dernières années, où on a dit faut sauver les petits oiseaux, faut sauver les bestioles. Et on n'avait pas compris que c'était nous qu'il fallait sauver, a priori. Et donc, c'est un premier constat. Maintenant, il faut arriver à faire basculer notre raisonnement vis-à-vis de ça, pour se dire, encore une fois, faisons appel à finalement aux plus belles qualités de l'être humain, c'est-à-dire la créativité et l'intelligence. Et ok, on a un problème. Et il faut résoudre collectivement ce problème. Et on n'a pas aujourd'hui l'élément de décision politique qui est là et qui est à l'échelle du problème. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres solutions. Et ces solutions, il faut les trouver en nous. C'est notre initiative. C'est les millions d'initiatives qu'il y a aujourd'hui sur la planète. Comment fait-on pour avancer? Je crois que la question, elle est là. Donc je crois qu'il y a une notion d'envie. Très longtemps, les écolos, entre guillemets, ont été des gens donneurs de leçons, donneurs d'ordre, en disant c'est pas bien ce que vous êtes, culpabilisés. Et là, on n'avance plus. Parce que le désespoir est une énergie négative. Nous, on cherche une énergie positive. Et je crois qu'on a la chance de faire un métier qui nous permet d'aller chercher l'adhésion. L'émotion est un moteur extraordinaire. Le cinéma est un moteur extraordinaire. Il permet de se faire rencontrer les gens, de véhiculer du rêve, véhiculer plein de choses finalement. Et je crois qu'aujourd'hui, on va pas chercher à aller convaincre les convaincus, ils le sont déjà. On va aller chercher ceux qui sont plus difficiles à chercher, ceux qui sont allergiques à ce message-là. Parce qu'il y a plein de gens qui sont allergiques. Je crois qu'aujourd'hui, on doit pouvoir donner à chacun des solutions pratiques, simples et accessibles pour pouvoir mettre en œuvre ce genre de choses. Moi, je dis fréquemment, je suis le premier à monter dans ma voiture, qui est une voiture diesel, que j'aimerais bien changer, mais c'est du fric de changer une bagnole. Et tous les jours, quand j'emmène mes enfants à l'école, j'ai le sentiment de polluer et je le vis mal. Et j'espère que très vite, j'aurai une voiture propre, qui soit accessible à mes moyens, pour permettre de faire ça. Si moi, je peux pas faire ça, qui suis convaincu, ben, je me dis que le reste de la population peut pas le faire non plus.
Alors, le tournage a démarré en octobre 2013 et il y a la livraison d'un documentaire intitulé lui aussi La glace et le ciel qui est prévu pour le printemps 2015. Alors, où est-ce que vous êtes allé déjà pour ce tournage? Qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a semblé vraiment emblématique des conséquences des changements climatiques que l'on voit déjà aujourd'hui sur notre planète?
Ben, on a voulu ramener donc le long métrage que je vais sortir au cinéma juste avant la COP21.
Cette conférence sur le climat qui aura lieu à Paris où on attend un accord international de tous les pays.
Dont on parle beaucoup. Moi, j'ai voulu raconter la vie de Claude et la vie de cette recherche, mais j'ai aussi voulu l'emmener là où il avait prédit qu'il allait se passer quelque chose. Et quand vous allez sur les glaciers des Alpes, vous allez sur le glacier d'Aletsch ou la mer de glace, par exemple, vous avez une ligne de fonte qui est à 200 mètres au-dessus de vous, et on dit, voilà, ça s'est passé en un siècle. Quand vous voyez la puissance de ce glacier, et la vitesse à laquelle il a fondu, il y a une interpellation qui est extrêmement puissante. On est allé en Polynésie aussi. Pas dans les coins pourris, si j'ose dire. On est allé dans les plus beaux endroits pour dire, regardez, même les paradis sur Terre, aujourd'hui, sont en train de bouger. On a rencontré des enfants de 15 ans qui nous disaient, ben là, il y avait une plage. Là où vous êtes en train de tourner, il y a une plage, il n'y a plus de plage. Donc je pense que c'est important de ramener aussi le visuel pour dire, ben, c'est en train de se passer tellement vite que, bien sûr, l'œil ne le saisit pas, mais la caméra peut nous permettre d'appréhender ces choses-là.
Alors, Laurent Dess, la plateforme multimédia va être nourrie, on l'a dit, petit à petit. Et d'ailleurs, vous recherchez des projets, en fait, parce que comme vous, voilà, ça va s'alimenter, vous êtes toujours en train de tourner. Alors, quel type de projet cherchez-vous?
Alors, c'est plus particulièrement pour la partie 3, où on recherche des individus, des communautés qui innovent à leur échelle dans le monde et qui proposent des solutions à l'échelle locale, des petites choses qui se motivent à faire. Et donc, effectivement, on essaye de les mettre en avant pour donner la possibilité aux enfants de se dire, bah, c'est possible, même avec pas énormément de moyens, je peux faire des choses à mon échelle. Et donc, on veut leur montrer qu'à travers le monde, il y a d'autres gens qui font des choses.
Alors,
avec
par exemple, quel type de solution avez-vous identifié aujourd'hui pour que les gens comprennent bien? Ah, vous regardez Luc Jacquet. C'est la question piège.
Non, c'est pas du tout la question piège, mais je pense que ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, nous, c'est de mettre en relation la science, le cinéma et la pédagogie. Et on essaye de faire tourner ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment des médiateurs aujourd'hui. Et on sait qu'on sait faire ça, parce que c'est finalement notre savoir-faire. Et je crois que si on peut fédérer ça à travers toute forme d'initiative, c'est-à-dire restreindre ça à dire, bah tiens, il y a une école qui a décidé de, je dis n'importe quoi, de recycler les déchets de sa cantine pour les donner à manger à des animaux, peu importe lesquels. Bien sûr, c'est bien, mais faisons tourner les solutions, parce que peut-être qu'une communauté va nous dire, bah tiens, on a cette solution pratique, on vous l'amène. Nous, on va pouvoir la répercuter sur quelqu'un qui lui a un problème. C'est-à-dire, voilà, on va essayer de faire partager tout ça. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui.
Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens sont en recherche de solutions pratiques, comme vous le disiez. Il ne suffit pas simplement de s'informer sur la science, il faut aussi savoir comment agir. En fait, l'envie, elle est là. La difficulté, souvent, c'est de trouver les moyens d'action et puis de rencontrer les bonnes personnes.
Ben, je crois qu'il y a, il y a une chose qui est importante, c'est la sensation de communauté et d'énergie partagée. Et plutôt que d'être tout seul dans son coin, si on sent par ce genre de biais-là qu'on est plein de gens à agir, on va créer encore davantage d'adhésion. Et je crois qu'on essaye de créer un mouvement comme ça, une énergie encore une fois, pour essayer de faire avancer tout le monde.
Oui, parce qu'on parlait de la conférence à Paris en décembre 2015. C'est vrai que la société civile a un rôle à jouer aussi pour mettre la pression. On a vu récemment là à New York une manifestation de 300 000 personnes. Il y a eu des manifestations un peu dans de nombreux pays, mais on a l'impression qu'il y a un mouvement qui revient comme ça de la société civile. Et par exemple, la plateforme que vous avez créée peut faire tache d'huile un petit peu, participer à ce mouvement.
On contribue à ça, en tout cas. Moi, je pense que ça va être la somme de ces initiatives qui, à un moment donné, va faire basculer la question. On sent que les politiques aujourd'hui sont complètement dépassées là-dessus. Ils sont dépassés parce qu'il faut traiter à une échelle qui va au-delà de l'intérêt national, qui est l'intérêt de l'espèce. Et qui, aujourd'hui, peut traiter en toute indépendance de l'intérêt de l'espèce? C'est la même chose pour la forêt. Qui est capable de dire, bah, tiens, on va interdire de couper les arbres. On va demander d'arrêter d'émettre du carbone. C'est impossible. On sait pas faire. Donc, il faut passer au-delà. Et, la solution, elle n'existe pas encore. Mais je crois qu'il faut créer l'énergie pour produire cette solution.
Oui, parce qu'aujourd'hui, les technologies, on les a.
D'une part, on a la connaissance, c'est-à-dire qu'on a le diagnostic, et on a les solutions pour appliquer le diagnostic, et on a encore l'énergie pour appliquer le diagnostic. On sait très bien, et ça c'est les gens du GIEC par exemple qui nous le disent, qu'à un moment on va arriver dans une situation de crise énergétique ou une crise de pollution telle qu'on sera dans une réaction, et là ça sera le chaos.
Laurent Dess, vous êtes 16 à peu près à WellTouch, donc cette association, à travailler. J'imagine qu'il y a un peu toutes les générations. Est-ce que sont tous des gens impliqués au même titre que Luc Jaguet dans le discours?
Ah bah oui, je pense. Ce qui est intéressant de travailler chez WellTouch, c'est d'allier l'éthique au travail et de pouvoir mettre en œuvre sa propre morale dans le travail. Donc oui, c'est une implication, oui.
Alors oui, l'une des difficultés, Luc Jaguet, c'est exactement ça. Et c'est sans doute pour ça que votre plateforme s'adresse en priorité aux scolaires, mais à tout le monde, hein, on le répète, c'est gratuit et c'est libre et c'est sur Internet. C'est qu'il y a quand même une génération qui monte, qui est sensibilisée à ces enjeux. Donc ça, c'est une source d'espoir.
Ben, c'est une source d'espoir, et puis c'est aussi assumer la responsabilité de notre génération. C'est-à-dire que nous, on hérite de problèmes, de décisions politiques qui ont été prises par la génération d'avant. L'idée, c'est pas de faire un procès de ça, mais c'est juste se dire, on va pas cacher la poussière sous le matelas. C'est-à-dire qu'on va prendre le problème à bras-le-corps, parce que les enfants qui sont en train d'arriver derrière nous, ils auront à résoudre un problème encore plus compliqué. Et autant les interpeller tout de suite. Lors du lancement de notre plateforme pédagogique, la semaine dernière, une petite fille qui a 6 ans lève le doigt, interpelle Jean Jouzel et lui dit « Mais finalement, monsieur, ça va être quoi notre futur ?» Et là, je pense qu'il y a une interrogation de ces enfants-là qui est énorme. Parce qu'on leur dit des choses, mais du coup, ça crée une espèce d'angoisse monstrueuse. Et donnons-leur les moyens de comprendre, parce que comprendre, c'est déjà faire un pas vers la solution. Et je crois que, effectivement, tout notre travail est là, c'est ce travail de médiation, puisque nous, on a la chance d'aller chercher un Jean Jouzel, un Jérôme Chaplat, qui des très très grands scientifiques aujourd'hui, qui vont être capables d'expliquer, de se mettre à leur niveau. Et vous savez, les scientifiques, ça leur fait quelque chose aussi d'être dans la situation d'interpellation. Parce que du coup, ils vont être obligés de reformuler le discours, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés de sortir de leur langage de communautaire avec leur culture scientifique où il me semble que, il est vraisemblable que, etc. Toutes ces nuances sont obligées d'être gommées parce que la petite fille qui a 6 ans, elle veut une réponse qui est simple. Et je crois que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui.
LaGlaceEtLeCiel.com, allez-y, c'est sur Internet. Et petit à petit, vous allez découvrir, comprendre et donc être sensibilisé à ces enjeux climatiques qui sont essentiels pour vous et pour vos enfants. On l'a suffisamment dit aujourd'hui. Merci à tous les deux d'être passés dans C'est pas du vent. Restez avec nous dans quelques minutes. Nous vous emmènerons en Colombie à la découverte d'un réseau de paysans qui se bat pour la préservation de leurs semences traditionnelles. À tout de suite.